Marc Lévy, bonjour, merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, vous venez de faire paraître un nouveau roman qui s'appelle « Éteignez tout et la vie s'allume ». Comme d'habitude, édition Robert Laffont et Versilio, votre maison d'édition. C'est un roman très poétique, une écriture très différente de la trilogie que vous avez sortie précédemment. Et la gestion du temps est vraiment au centre de ce roman.
Il y a le temps qu'on donne aux autres, il y a le temps qui passe, il y a le temps... le peu de temps qu'on s'accorde à soi-même, il y a le temps qu'on vit, il y a le temps que l'on attend, et tout ça, c'est une dimension qui est vraiment au centre de notre existence, et avec le temps qui passe, que notre vie s'écoule, et bien sûr que, qu'est-ce qui est vraiment intemporel, hein, à part le sentiment, donc... je trouve que c'est pas que ça me préoccupe, je trouve que c'est un très beau canevas pour poser une histoire, d'avoir le temps comme fil rouge et comme fil conducteur.
Bien sûr. Alors, le point commun peut-être entre ces deux personnages, c'est qu'on dirait qu'ils ne veulent pas rentrer dans leur rang tous les deux, c'est des originaux.
Je ne crois pas que ce soit des originaux, je crois qu'ils ont... peut-être qu'ils le sont, mais je crois qu'ils sont porteurs d'une différence, comme nous le sommes tous, mais eux ne mentent pas. La peur que nous avons du groupe ou de la meute fait que, depuis l'école jusqu'à la fin de nos jours, la majorité d'entre nous n'a pas le courage d'affirmer notre différence et on la cache. On la cache pour s'inscrire dans la norme, pour ressembler aux autres, pour faire selon la tradition, pour faire comme on nous a dit de faire. Et finalement, un très petit nombre d'entre nous accepte sa différence telle qu'elle est et au contraire comprend qu'elle est la part intégrante de notre identité et que personne ne nous oblige à être autrement que ce que l'on est. Alors en plus, il y a le regard de la société qui nous oblige. Mais le regard de la société, on l'emmène pas dans la tombe, alors que nos regrets, oui.
Oui.
Donc c'est ça qui est ils sont affranchis, ils ont ce courage d'être affranchis. Quand Adèle vit une histoire avec Gianni qui a 20 ans de plus qu'elle et qu'elle se promène dans les rues du même village, les regards ne se posent que sur sa beauté à elle. Mm-hmm. Les regards qui se posent sur Gianni sont des regards d'envie, alors que quand elle se retrouve de la façon la plus innocente qui soit dans la salle à manger d'un hôtel de province avec un jeune homme qui a 20 ans de moins qu'elle, les regards sont accusateurs et narquois. Qu'est-ce qui est bête dans cette histoire? Qu'est-ce qui est vilain? Ça n'est pas Adèle ou Jérémy, ce sont les regards qui les jugent au lieu de les comprendre. Donc c'est surtout ça, c'est aussi une histoire sur la liberté d'être et de se défaire du regard des convenances et du regard des jalousies et du regard et des regards finalement indiscrets et abusifs de ceux qui veulent vous contrôler.
Mmh. Alors c'est un road trip aussi dans un sens, puisque ça commence sur un bateau, ça finit avec une voiture. Vous aimez bien ce côté voyage, c'est important dans le roman?
Ça c'est à vous de le dire, c'est au lecteur de... Non, mais... je veux dire que la réponse est dans votre question, oui, sinon je ne l'aurais pas écrit. Mais si c'est important dans le roman, c'est vraiment, ça y est, que le lecteur qui peut le dire. Mm. Moi, bien sûr, sinon je l'aurais pas fait. Si je l'ai écrit comme ça, c'est bien sûr parce que ce qui est important, c'est que il y a trois moments dans le roman, le voyage en bateau, le voyage sur la route et le voyage dans les airs qui se font à trois vitesses différentes et qui ont trois raisons différentes et qui sont trois moments de leur histoire et de cette rencontre. Mais oui, ils sont en mouvement, voilà.
Ce serait quoi pour vous la bande-son de ce road trip? Qu'est-ce que vous aviez en tête comme musique?
Ah, c'est drôle, ça c'est une question drôle que vous me posez là. En fait, j'avais une musique qui me ranguait. Alors, je ne veux pas l'imposer au lecteur, mais ça allait aussi bien. Ça allait aussi bien d'un impromptu de Schubert, mm-hmm, qu'à une musique des Beatles à une chanson italienne, mais ça pouvait être aussi une balade, et ça pouvait être du Jim Croce, et ça pouvait... Il y a plein de musiques qui pouvaient se coller sur la bande-son et qui collaient à cette histoire. Parce qu'il y a des moments très intimes entre eux, et des moments... Et à la fois des moments très intimes et des moments où les silences jouent un rôle très très important, parce que dans leur silence, ils s'en disent parfois beaucoup plus qu'avec des mots inutiles. Mm-hmm. Et au milieu de ces silences, c'est une vraie question de savoir si une musique se glisse. Alors Jérémy met plusieurs fois la radio pour meubler les silences, et en général, c'est toujours un air de jazz qui se joue, mais... Voilà, ça peut être Nat King Cole, mais ça peut être Armstrong, mais ça peut être aussi... ça pourrait... Oui, je penserais, tiens, voilà, spontanément, la bande-son, j'aurais pu la demander. Ça pourrait être Mélodie Gardot.
On sent aussi votre amour de l'Italie, peut-être parce que c'est un pays où il y a une vraie douceur de vivre.
Vous disiez ça, parce que je ne dis jamais dans le roman que c'est en Italie. Alors... Ça, c'est complètement vous qui l'avez imaginé.
Ah, peut-être.
C'est le plus beau des compliments que vous pouvez me faire, parce que quand vous me dites on sent l'amour de l'Italie, ça veut dire que... Et ça, c'est... Je n'ai jamais dit où ça se trouvait.
C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, les cyprès, la douceur de vivre, les restaurants, la route telle que, c'est ça que j'ai imaginé. Peut-être que c'est ma vision du roman.
Et ça peut être, et ça peut être aussi l'Espagne. Oui. Et ça peut être l'Amérique du Sud. Ça peut être en Argentine. Ça peut être. Mais je l'ai fait exprès. Enfin, quand je dis je l'ai fait exprès, c'était pas pour vous piéger.
Hein. Non, non.
Parce que je pense que c'est parce que ce que j'aime plus que tout dans un roman, c'est le pouvoir qu'a le roman d'aller susciter notre imaginaire. Mmh. Là où notre imaginaire au cinéma est évidemment impacté par l'image.
Bien sûr.
Et conditionné par l'image. Mmh. Et de la même façon que j'avais pris un plaisir fou à écrire Le voleur d'ombre sans jamais donner son prénom ou son nom.
Oui.
Et c'était vraiment important pour moi. Et alors faire tout un roman sans donner le nom du personnage principal,
c'est dur.
Pas gagné.
Oui.
Et là, je n'ai donné aucune indication sur l'époque et ni sur le lieu. Et ça contribuait au pari d'écriture. C'était important pour moi.
Oui. Est-ce que vous avez découvert cet univers de l'horlogerie? Parce que quand même, Adèle, elle a une profession très originale. Elle est maître horloger. Et oui. Il y a des scènes extraordinaires comme ça, on va dire, dans le cœur des horloges.
Oui, elle est même grand maître horloger, ce qui est une petite différence parce que elle est, quand on dit, bon, en fait, elle répare, restaure, et les horloges monumentales. C'est-à-dire les grandes horloges qu'on trouve en haut des immenses édifices, que ça soit les gares, les cathédrales, les grands clochers, et donc ça, c'est vraiment sa spécialité. Donc effectivement, comme vous le dites, la mécanique de ces grandes horloges est pas la mécanique, enfin, a des points en commun, enfin, des ressemblances avec la mécanique d'une montre, sauf qu'on peut pas marcher dans une montre, alors que là, on s'y promène vraiment.
Mmh.
Et ce sont des pièces entières. Alors oui, hélas, parce que le temps est un des personnages, encore une fois, du roman.
Ouais.
Et donc, elle a ce vieux fantasme, ce rêve de croire à une légende qui permettrait d'arrêter le temps.
Et ça, vous avez été initié par des gens qui s'en occupent? C'est quelque chose qui vous intéressait comme ça? Vous êtes tombé un peu par hasard dessus?
Alors, c'est les deux. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a conduit au fait que Adèle soit grand maître horloger? Ça, c'est l'imagination. Alors, il y a une très jolie émission qui a été faite sur l'imagination, d'où vient l'imagination, et on ne sait pas. Et puis après, une fois que vous avez l'idée, bah, il faut pour la mettre en scène, cette idée, pour lui donner vie, il faut se documenter, travailler et chercher dans les livres. Et quand on ne trouve pas dans les livres, aller consulter les spécialistes. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé tout mon bonheur dans les livres.
Et ce titre, pour finir, Marc Lévy, il est venu à la fin, puisque c'est la dernière phrase du roman.
Oui, vraiment. Il est né avec la dernière phrase du roman. Absolument. Et on le comprend avec la dernière phrase du roman. Et c'est-à-dire, ce qui est drôle, c'est que si on triche et qu'on va lire la dernière phrase du roman sans avoir lu le roman, on le comprend pas forcément.
C'est vrai.
Et ça, c'est assez joyeux.
Et bon, en tout cas, c'est une histoire d'amour touchante, un livre poétique qui se lit avec plaisir et dont on ressort avec le sourire. Merci beaucoup, Marc Lévy, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
Merci à vous et désolé pour les petits problèmes techniques que nous avons connus au début d'émission.
Voilà, alors ça s'appelle Éteignez tout et la vie s'allume.
Je vous souhaite une belle et heureuse année.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.